Qu'est-ce que tu veux que je leur dise de ta part ? Eh ben, rien n'est venu. Je me suis levé ce matin à 4 heures pour essayer de chercher. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je vais leur dire ? Il n'y a qu'une seule chose, une seule phrase. Alors, on va commencer comme ça, avec une phrase. C'est une phrase en même temps, c'est une interrogation et en même temps c'est une affirmation. Dieu peut-il avoir confiance en toi? Amen. Lorsque l'Éternel, Créateur, a fait la création, on voit plusieurs fois qu'il dit qu'il a fait la lumière, les plantes et ceci, et à chaque fois il dit que l'Éternel vit que cela était bon. Et l'Éternel vit que cela était bon. Sauf que, dans le texte qui nous parle de la création de l'homme, il dit que cela fut très bon. C'est encourageant de savoir que pour l'Éternel, pour Dieu, pour le Dieu créateur, la création de l'homme et de la femme, c'est quelque chose de très bon. À partir de là, on peut aller un peu plus loin et dire que ce que le Seigneur souhaite, ce qu'il veut, ce qu'il désire, c'est que nous puissions être en union avec lui. On dit des fois une communion, mais j'aime bien des fois séparer les choses. Le Seigneur souhaite une commune union entre lui et nous, entre nous et lui. Notre pratique religieuse ne l'intéresse pas. Ça le barbe, des fois. Si notre pratique religieuse n'est que une pratique religieuse. Ce qu'il souhaite, c'est un cœur à cœur, une relation avec nous. Et il souhaite, au travers de la relation qu'il a avec nous, se saisir de notre vie afin de... D'abord, communier son amour et que ça aille dans les deux sens. Et étant donné que nous l'aimons, alors nous le servons aussi. Je pense à Job. Le Seigneur a eu confiance en lui. Si on lit les premières paroles de ce livre de Job, l'histoire de Job, l'Éternel dit à Satan, « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job ? Il n'y a personne qui est aussi intègre que lui. » Waouh, quelle déclaration. Il faut dire que Job, il demandait même pardon pour les fautes de ses enfants, parce qu'il souhaitait que rien ne vienne entraver la grâce, la bénédiction, la relation avec le Seigneur. Et Satan de dire, mais ouais, c'est parce que tu lui as donné plein de trucs, parce que tu l'as béni, etc., mais enlève-lui. Et nous connaissons l'histoire de Job. Ce que je veux dire, c'est c'est que le Seigneur a eu confiance en cet homme-là. Le Seigneur a eu confiance en Abraham. Il lui a demandé une chose qui était complètement folle. Tu as un fils ? Eh bien, je demande à ce que tu le sacrifies. Et le Seigneur avait confiance en lui, et Abraham avait confiance en Dieu. Mais enfin, c'est un peu démesuré comme demande. Allez, le fils que tu as eu au travers de Sarah, celui qui s'appelle Isaac, sacrifie-le-moi. Et au moment où Abraham allait planter le couteau, le Seigneur l'arrêta. Certains diront, c'est quand même un peu trop quoi. Hein, t'exagères, Seigneur. Mais on parle d'Abraham comme étant le père de la foi. C'est j'allais presque dire lui qui nous entraîne dans la foi, y compris dans la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui nous ouvre le chemin pour que nous puissions avoir cette relation. Le Seigneur avait confiance en lui, et lui, Abraham, disait, mais même si mon fils meurt, je crois que l'amour de Dieu va le ressusciter. Le Seigneur a eu confiance en David. C'était un berger qui gardait les moutons, et c'est lui qui a été tué Goliath, alors qu'il était le rebut. C'était le dernier des derniers. T'as pas encore un fils. D'ailleurs, l'histoire commence par le fils aîné qui était grand et beau. Et puis, tout à la fin, t'as pas un petit dernier? Ouais, il est là-bas. Il garde les moutons. Finalement, c'est lui que le Seigneur a pris pour que Israël soit délivré des Philistins, et pour que ce soit lui qui tue Goliath. D'ailleurs, quand on lit le récit, on voit que les frangins, ils sont franchement pas contents, quoi. Jaloux, mais qu'est-ce que tu viens faire? Où sais-tu qui va garder les troupeaux? Comment se fait-il que Dieu prenne le dernier, là, celui qui est des fois en train de chanter des cantiques, etc. Mais voilà, Dieu l'a pris, il a fait confiance. On pourrait allonger la liste, parce que dans le livre des Hébreux au chapitre 11, il y a toute une liste de personnes qui sont appelées des héros de la foi, parce que ils ont fait confiance en Dieu et parce qu'ils se sont laissés prendre, saisir par le Seigneur. Et alors, que dire des 12 disciples qui auraient parié que 12 bonhommes, et lesquels, hein, parce que c'était pas de la tarte toujours, hein. Avec 12 et un peu plus, parce que il y avait quand même des gens qui suivaient Jésus. On sait que le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 à prier, alors ils n'étaient pas que 12. Et le Seigneur se saisit de ces personnes pour bouleverser le monde, selon la parole des Actes. Ces hommes ont bouleversé le monde, dit des gens à l'église dans la ville de Thessalonique. Et maintenant, ils ont bouleversé le monde, et ils viennent chez nous, et ils veulent aussi bouleverser notre ville. En fait, Jésus a eu confiance dans ses 12, même si Judas s'est perdu en cours de route par choix. Mais Jésus a fait confiance. Alors que les théologiens disaient, mais ce sont des gens qui sont de Galilée, celui-là il est pêcheur, là c'est un gars qui était avec collecteur d'impôts, c'est-à-dire qu'il était à la solde des Romains, collabo, on va dire, avec les Romains, et puis finalement quand il pouvait, il demandait un peu plus d'argent et puis se les mettait dans les poches. D'ailleurs, c'est un peu fou parce que le Seigneur a appelé ce gars-là qui s'appelle Lévi, Matthieu, et en même temps, il a appelé Simon le Zélote. Alors Zélote, lui, c'était l'épée, et il voulait trucider tous les Romains. Et des fois, je me dis, waouh, Seigneur, comment t'as fait pour les emmener tous les en communauté pendant 3 ans les uns avec les autres, ça devait pas être de la tarte, hein. Tellement la manière de voir, de concevoir était différente. Et pourtant, avec leurs différences, Jésus a fait en sorte que le monde soit bouleversé jusqu'à aujourd'hui. Et que l'évangile se répande. Et puis, il a fait confiance, il a fait confiance en Paul, celui qui s'appelle Saul. Moi, ça me bouleverse parce que lorsque Saul est aveugle et que pendant 3 jours il jeûne en attendant de voir ce qu'il de voir, il était aveugle. Mais quand même, il attendait la suite. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et voilà que le Seigneur va voir un homme qui s'appelle Ananias pour lui dire, va prier pour lui. Et d'ailleurs, il le dit, Ananias, mais Seigneur, le gars, il persécute tes enfants, je l'ai entendu de plusieurs. Peut-être que Ananias aurait pu dire, ben bien fait pour lui. Mais non, le Seigneur lui dit, ben tu vas, et tu vas prier pour lui. Je sais pas si on serait allé là en Algérie, je sais pas si c'est facile d'aller vers les bourreaux, et puis de dire, je vais prier pour toi. Et j'allais presque dire pire, lorsque Ananias rencontre Saul qui est aveugle, il lui dit, Saul mon frère, je viens prier pour toi. Saul mon frère, waouh, il fallait avoir de la foi. Le Seigneur a eu confiance en Ananias pour l'envoyer, et il a eu confiance en Paul, en Saul qui deviendra l'apôtre Paul, pour donner à l'Église, d'abord pour annoncer l'Évangile d'une manière extraordinaire, et aussi pour nous donner pratiquement la plupart des écrits du Nouveau Testament. Cet homme qui était persécuteur de l'Église, le Seigneur avait confiance en lui. Et moi, ça me scotche un peu. Je me dis, oh, oh. Certes, il y a eu des gens qui ont laissé le Seigneur par choix. Je parlais de Judas. Je peux parler aussi de Démas qui nous a quittés, dit Paul, pour aller dans le monde parce qu'il voulait plutôt vivre dans ce siècle présent. Mais le Seigneur a fait confiance, y compris à Judas, jusqu'à ce que Judas décide de faire autrement. D'ailleurs, c'est souvent pour moi un peu incompréhensible, hein, pourquoi Judas, qui était un voleur, enfin qui prenait dans la caisse, pourquoi Jésus l'a nommé trésorier, quoi. C'est, on pourrait dire, Seigneur, tu manques de discernement, mais non, il l'a fait exprès pour pouvoir permettre à Judas de d'être quelqu'un d'autre, mais Judas n'a pas souhaité. Depuis 20 siècles, le Seigneur fait confiance à des hommes et à des femmes et à des enfants pour que l'Évangile se répande. Il y a un pasteur de Cholet, presque à chaque fois qu'il me téléphone, et c'est plusieurs fois dans le mois, à chaque fois il termine la conversation en disant « Bernard, je crois en toi ». Ça fout un peu la pression. Hein. J'ai envie de lui dire « Crois plutôt au Seigneur, ta foi sera, ta confiance sera mieux placée, mais... » Mais qu'importe, je trouve que cette formule est particulière. Donc maintenant je m'habitue et je lui dis merci. Et en même temps, au début, j'avais du mal à recevoir cette parole, par orgueil probablement. Et l'Esprit Saint m'a dit, mais pourquoi t'acceptes pas? Si les gens te font confiance, accepte la confiance, leur confiance. Ne sois pas orgueilleux en disant, ouais, mais la confiance doit être placée en Dieu seul. D'ailleurs, c'est pas vrai, hein. Moi, je place ma confiance en ma femme. Je pense que c'est réciproque. Je lui demanderai. Je pense que, parce que je ne vais pas prolonger exprès pour pas grand-chose, mais je crois que le Seigneur est en train de vouloir te dire « J'ai confiance en toi ». J'ai confiance en toi. J'ai confiance dans ce que j'ai placé dans ton cœur, dans ta vie, dans ton être. J'ai confiance en toi. Souvent, nous voulons que ce soit nous qui ayons confiance en lui, mais lui, ce matin, c'est ça qu'il souhaite nous dire. J'ai confiance en toi. Confiance en l'action de mon esprit en toi, confiance dans le fait que confiance dans la relation que nous pouvons avoir ensemble. J'ai confiance que je vais pouvoir te donner de vivre un service, un apostolat, que sais-je. Chacun comme il le veut, à chacun comme il le veut, mais j'ai confiance que tu peux vivre ce que j'attends de ta personne. Et je voudrais alors juste dire, je vais commencer par ça. Parfois, nous trouvons dans l'Église des épouses qui sont derrière leur mari. Alors c'est en même temps un peu une réalité. Daniel me dit, mais alors je sais pas si je prends plein de place, mais effectivement, elle est moins hardie que moi, donc je peux paraître au point que elle disparaisse. Enfin, disparaisse, c'est difficile, elle est grande. Je voudrais dire aux femmes, ne restez pas cachées derrière votre mari, parce que le Seigneur vous fait confiance. Et puis je dirais, et je dis la même chose aux hommes, parce que des fois, vous savez, quand j'ai rencontré Danielle, elle me foutait la trouille. C'est une grande fille, sage, tout le monde disait du bien d'elle, etc. Elle jouait de la guitare, elle avait beaucoup de dons, et waouh, quand j'étais attiré par elle, je me suis dit, tiens, cette fille est chouette, j'ai envie de vivre avec elle. D'ailleurs, j'avais dit un peu la même chose avec Dieu. Tiens, Dieu est extraordinaire, je veux vivre avec toi. Et puis, on s'est mariés, mais pendant un bout de temps, je ne veux pas dire que j'avais un complexe d'infériorité, mais je la trouvais tellement grande que je me trouvais tellement nul. D'ailleurs, quelqu'un avait dit, quand ils ont su qu'on allait se marier, « Ah, ben Daniel, tu mérites mieux. » Bon. Après, les mêmes personnes demandaient à ce qu'on les aide dans leur vie de couple, mais c'est autre chose. Nous pourrions, ou nous nous cachons parfois derrière la vie spirituelle des femmes, des épouses, au point qu'on en est complexé. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes. Et le Seigneur est en train de dire, ou veut dire, mais moi j'ai confiance en toi. Moi j'ai confiance en toi. Moi je veux faire quelque chose avec toi. Quelque chose de particulier, de spécial, qui ne soit pas forcément la même chose que ton épouse. Mais je veux faire, parce que je crois. Parce que j'ai confiance en toi. Et l'inverse est vrai. Parfois, et je terminerai peut-être par là, mais parfois on ne se sent pas capable. Moïse ne se sentait pas capable. Il était bègue. Et pourtant, c'est lui que Dieu envoie voir le Pharaon pour apporter la parole de Dieu. C'est complètement dingue, quoi. Tu te dis, mais comment ? Comment Dieu peut choisir un gars qui n'a pas la parole facile pour aller devant un homme qui a une puissance infinie ? Mais le Seigneur avait confiance en Moïse et il avait confiance dans le plan qu'il avait vis-à-vis de Moïse. Allez, si on parle d'Élie, le prophète, le Seigneur a eu confiance en lui, mais il faisait de la dépression, le gars. Il était dépressif. Mais même en dépression, le Seigneur avait confiance en lui, l'a appelé à son service. Je le disais tout à l'heure, les disciples n'étaient franchement pas des théologiens. Mais ils avaient vu Jésus faire. Pas seulement faire, être. Ils ont vu comment Jésus avait de la compassion pour les autres. Ils ont dit, ah ben tiens, c'est cette compassion-là que le Seigneur me demande d'avoir. Et ils ont reproduit. Dans Romains, chapitre 8, Le verset 34, il nous est dit que Jésus intercède pour nous. Il prie pour nous. C'est une notion que nous n'avons pas toujours en pensée. Parce que nous, on est tellement habitués à prier. Mais on ne pense pas que Dieu, enfin que Jésus-Christ prie pour nous. Prie pour toi. Sympa. Non ? Ah oh, ouais, ouais, sympa. Sympa, il prie. Prie pour toi. Prie. Pour chacun d'entre nous, il prie. Et cette prière, c'est pas seulement garde-les pour pas que rien ne leur arrive. On voit bien que en Algérie, là, c'est pas évident, mais dans d'autres contrées, et j'ai beaucoup apprécié ta prière, Joby. On te demande pas de leur épargner la souffrance, mais de les fortifier dans ces temps de souffrance. C'est juste. C'est très juste. Le Seigneur n'est pas en train de prier pour qu'il ne nous arrive rien. Il est en train de prier pour que nous puissions avoir la foi en lui et garder cette foi. Et si lui prie, alors sa prière est efficace. Le Seigneur a confiance en toi. Il te le dit ce matin à l'oreille. Dans les deux, faudrait dans les deux oreilles. Que cette parole te libère. Que cette parole te libère pour vivre ce que le Seigneur te donne de vivre et de faire. Que cette parole te libère pour vivre une intimité avec lui. Ah, je suis pas digne. Ouais, mais arrête de te regarder le nombril. Ah. Oh. Cette semaine, quelqu'un avait écrit au site Lueur en disant j'ai des problèmes avec la repentance, etc. Donc j'ai écrit à la personne en disant écoutez, début de semaine ça va pas le faire, mais vendredi je vous appelle. Quelqu'un de enfin bref, qu'importe. Et lui, alors il était complètement coincé, enfermé parce que il n'arrivait pas à se repentir comme il pensait devoir se repentir. Je regrette pas assez. Et puis, au fur et à mesure, il disait, mais j'ai encore des problèmes d'orgueil. Alors je lui dis, ah ben, jusqu'à la fin, t'en auras. Voilà, hein, arrête de t'enfermer dans la culpabilité. Maintenant, marche avec le Seigneur. Et cet homme me dit au bout du fil, ça me fait du bien. Votre parole me décide à me faire baptiser. Bon, 40 ans. Il dit, j'ai tout perdu. Enfin bref, vie compliquée, mais ok, je vais m'engager avec le Seigneur. Le Seigneur veut faire des choses, veut te dire ce matin, j'ai confiance en toi. Il le dit à nous adultes, mais il le dit à tous les enfants. Pap, pap, pap. Eh, je suis là. C'est bon. Ah. Le Seigneur dit, j'ai confiance en toi. D'accord ? Pas seulement aux grands, ou aux adultes, mais à chacun d'entre eux. Prions. Nous voulons juste dire, Seigneur, que nous sommes honorés. Honorés de la confiance que tu as en nous. Nous t'en remercions et le fait de ta confiance en nous nous permet d'autant plus de venir dans tes bras sans culpabilité, sans rechercher la perfection, mais toi tu nous fais confiance et nous te remercions de celle-ci et nous voulons juste répondre ok Seigneur, merci pour ta confiance et continue à prier pour moi, continue à prier pour nous. Continue à prier pour que je puisse vivre comme tu souhaites que je vive avec toi. Mais oui, oui Seigneur, je crois, je prends comme quelque chose d'acquis le fait que tu aies confiance en moi, en nous. Amen. Amen. On peut peut-être terminer par un chant ?